Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Radio Syllabe, la radio sauvage des campus rennais. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire qui va à la rencontre des faits et objets littéraires de tout horizon et tout poil.
Chaque lundi soir, on vous propose de la chronique, des lectures ou encore des entretiens et des reportages. Nous, on ne s'enferme dans aucun format, pourvu que l'on vous mette à l'honneur une littérature vivante et vibrante, singulière et plurielle.
Ce soir, on va vous parler de zines, d'appels à texte, de dissémination des idées et de récolte de paroles, de culture queer et d'espaces ruraux. Nous sommes avec Horty du zine collectif et queer collaboratif Queer des Champs.
Et avant de donner la parole à Horty, qu'on aura tout à l'heure dans l'entretien après l'agenda culturel, on voulait se faire un petit tour de table pour se présenter, dire en quelques mots notre rapport à la queeritude des champs. Donc je commence, moi c'est Cesse, pronom whatever, et j'ai grandi dans un espace rural de type ma voisine la plus proche c'est mon arrière-grand-mère, et si tu veux voir un autre être vivant qu'une vache, bah faut prendre ton vélo pendant 15-20 minutes. Et malgré tout ça, je décide de plutôt me dire urbain en ce moment, aujourd'hui.
Alors moi c'est Clara, pronom elle. J'ai grandi à la fois une partie de ma vie à Paris, à la fois dans une campagne où il n'y avait pas non plus de voisins à part les vaches qui étaient dans le champ d'à côté. Aujourd'hui, je suis donc en ville, à Rennes, pour mes études. Mais la campagne ne reste pas très loin.
Horty, donc, c'est la troisième année où tu participes à la réalisation de Queer des Champs, un zine qui se veut un espace d'échange et un émulateur de conversation pour les personnes queer, ou en tout cas, qui se reconnaissent dans une existence éloignée des normes cis-hétérosexuelles et qui souhaitent s'exprimer sur leur rapport à la ruralité.
Avec Horty, on va parler de la naissance de ce projet, des deux numéros déjà publiés et du troisième en construction, pour lequel un appel à contribution est ouvert jusqu'au 1er juillet.
Mais d'abord, une page d'agenda culturel.
Nietzsche a dit
« L'édito tu écouteras, jeune padawan ».
Le 18 juin de 18h30 à 20h, rencontre avec Maxime Jolivelle, co-organisée par la librairie Comment Dire et la librairie La Rencontre.
C'est dans les locaux de cette dernière que Maxime Jolivelle reviendra sur son livre « L'appel des campagnes, de la forêt boréale au bocage breton », paru aux éditions Corti. Il y relate les 9 jours et 200 kilomètres sur lesquels il suit la Vilaine, depuis sa source jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique. Un périple en terre bretonne qu'il entreprend au printemps 2023 à son retour du Canada.
Ce récit de retour aux sources met en scène un géographe explorateur, qui va donner à voir les paysages au-delà des apparences, grâce à une observation aussi vigilante que sensible, et grâce à un regard informé, mais aussi rêveur.
Autre librairie, autre rencontre, nous nous rendons cette fois-ci à la librairie Refuge à Guichen, qui recevra Aurélie Moulin le samedi 20 juin. Rendez-vous à 10h30 pour la séance de dédicace de l'autrice jeunesse locale, qui mettra à l'honneur son irrésistible roman paru aux éditions Sarbacane, j'ai nommé Team Fantôme et Beurre Salé.
Il s'agit d'une enquête savoureuse et inattendue, en milieu de colonies de vacances propices aux amitiés nouvelles. Et promis, vous aurez votre dose de fantômes, ainsi que de beurre salé breton. La librairie Le Refuge vous le garantit. Avec autant de mystère que d'humour, ce roman a de quoi régaler vos ados et pré-ados pour l'été. Et le lundi 22 juin à 18h, rendez-vous cette fois à la Maison de la Poésie pour un atelier d'écriture pas comme les autres.
En effet, il se peut qu'à J'irai cracher sur vos ondes, on ne soit pas étranger à la tenue de cet événement. Puisque nous recevons aujourd'hui Horty pour parler de la revue Queer des Champs, laquelle propose un appel à contribution artistique pour son troisième numéro sur la thématique connexion. On a donc voulu contribuer autrement que de façon médiatique.
Vous vous dites peut-être, mais je ne suis pas un vrai de vrai Queer des Champs. Je ne puis absolument participer de quelconque façon à ce zine au demeurant formidable. Eh bien, peut-être qu'au cours de notre entretien, tu vas te rendre compte que, tout compte fait, tu y as ta place.
Et si tu as besoin d'un espace et d'un temps dédié pour te poser, écrire et créer, eh bien tu pourras venir le faire à la Maison de la Poésie de Rennes lundi prochain.
Et en attendant une petite pause musicale sélectionnée par notre invité, on va écouter Daffodil de Sister Wife Sex Strike.
And it's bigger than you. She stands at 8 feet tall.
call her a bitch and she'll like you too. Won't take any offense at all. Daffodil likes to meet her lovers at night at the local homo bar. Her conversational skills are just alright, but her appearance gets her far. She's just a normal girl, but she lives in a fucked up world. It's hard to be a normal girl when your hair is so perfectly curled. She's just living her life, barely staying alive. She doesn't ask for much, just some company at night. Election write-in, but in 2020 she was a little scared, so she voted for Joe Biden. Daffodil didn't tell a soul what she did. It's a secret that won't ever slip. But at night she worries she's getting old, and tosses and turns with regret. She's just a normal girl, but she lives in a fucked up world. It's hard to be a normal girl, but she's gonna give it a whirl. She's just living her life, barely staying alive. It's hard to keep going when you feel so evil inside. Daffodil hasn't given her mother a call since 2017. When she sees those unanswered texts, she doesn't feel as mean. Daffodil doesn't talk about her dad until you get her wasted. And she'll tell you then he's not all bad, he's just still like Ronald Reagan. She's just a normal girl, but she lives in a fucked up world. It's hard to feel like a normal girl when you constantly want to hurl. She's just living her life, barely staying alive. It's hard to keep going when your parents don't want you to thrive. I'm telling you this tale. Frankly, I wonder why as well. We all know our own Daffodil, even if it's just casually. But I must confess, I've begun to suspect there's a Daffodil inside me. I'm just a normal girl, but I live in a fucked up world. It's hard to be a normal girl. 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 It's 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 hard to be a normal girl. Living in a fucked up world.
Vous venez d'écouter Daffodil par Sister Wife Sex Strike. Musique choisie par Horty, avec qui on est ce soir. Bonsoir Horty. Est-ce que, avant de commencer cette interview, on peut te laisser peut-être te présenter en quelques mots par rapport au contexte de la revue sur laquelle on va t'interviewer aujourd'hui?
Mon pseudo c'est Horty. Je fais partie des gens qui sont à l'origine du projet pour des chants. J'ai une... comme tout le monde, une expérience personnelle sur la vie à la campagne, et puis avec un passage en ville au milieu. Et voilà, le signe, c'est un médium que je connais aussi sur de la pratique perso et de la pratique collective.
Alors, Queer des Champs, on va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je suis revenue pour préparer cette interview sur les définitions de qu'est-ce qu'on entend dans le sens commun par la ruralité, par la campagne. Alors, dans un premier temps, l'INSEE nous propose en 2021 une nouvelle définition de la ruralité et nous dit donc que la ruralité, ça désigne l'ensemble des communes peu denses ou très peu denses. Une définition qui nous avance beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la ruralité. Sur le CNRTL, donc Centre National de Ressources Textuelles, on nous dit que la ruralité, c'est tout ce qui appartient aux champs, qui concerne les champs, la campagne, tout ce qui a trait à la campagne. Quand on regarde ce que c'est que la définition de la campagne, vaste étendue de pays plats ou vallonnés découverts où se trouvent des prairies, cultures, vergers, etc. Donc le zine dont on va parler ce soir, dont il y a déjà deux numéros qui sont parus, donc Queer des champs, ça va traiter de cette question. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire ce que toi t'entends par la ruralité, par cette question des champs, de comment le sujet a été traité dans le zine? Qu'est-ce que c'est pour toi?
Notre nom complet, c'est Queer des champs avec une petite astérix qui dit hors ville. Le nom est sympa parce qu'il... par la formulation, ça évoquera des villes, ras des champs et du coup l'opposition avec la ville, ce qui est ce qu'on veut dire. En vrai, nous, c'est pas la campagne elle-même qui nous intéresse. On évite de parler trop de campagne parce que la ruralité, c'est beaucoup plus multiple que ça. Et qu'on a justement envie de s'installer, de s'intéresser à pas le fantasme justement de la campagne comme la petite ferme avec des vaches et des prairies de fleurs où on va en vacances, mais de ce que c'est réellement dans comme espace où on vit, avec notamment toute une notion d'espace qui est entre deux, parce qu'aujourd'hui la vraie campagne naturelle ou agricole, ça existe peu, et c'est généralement pas là où on vit, parce que c'est pas les zones les plus peuplées. Et du coup, nous, on y intègre tout ce qui est vraiment pas citadin, pas urbain, on va dire. Ça inclut des petites villes, en fait. Et sur le sujet d'être queer dans ces zones-là, c'est les endroits où, globalement, il y a moins d'offres. Il y a moins une présence où on peut, en fait, trouver une communauté, des gens qui nous ressemblent, des ressources, tout ça facilement. Et comment ça joue sur comment on se construit, comment on vit et comment on relationne entre nous.
Tu parles au pluriel en parlant de ce zine. Combien de personnes travaillent dessus et comment est-ce que vous vous êtes organisé sur la création de ce premier zine?
À l'origine, on est trois sur le projet. En fait, s'être retrouvé en ligne sur le fait qu'on était chacun un peu isolé dans notre campagne, mais avec envie de créer en discutant avec d'autres gens. Du coup, c'est un peu une colloque virtuelle des fois. Et un d'entre nous a vraiment fait une recherche de « Tiens, est-ce qu'il y a des gens qui ont produit des trucs sur cette expérience d'être LGBT en milieu rural ?» Il y a un sujet qui commence à être traité, du coup il y a quelques trucs qui existent d'un point de vue plutôt podcast, information, interview. Il y a un zine qui a existé avant nous, qui est plus en activité, et du coup on en est arrivé à, bah en fait il faut qu'on le crée. Mais à la base c'est pas venu d'une envie de le faire, c'est venu d'un besoin d'avoir ce sujet-là qui soit traité quelque part.
C'est beaucoup ce qu'on ressent à la lecture du zine, justement cette question des personnes qui se sentent, en tout cas qu'ils le sont ou pas, je ne sais pas, mais qui se sentent isolées là où elles sont à la campagne par rapport à ces thématiques, et où il y a un peu cette impression de faire commun par le texte et par le fait de se retrouver autour de l'écriture aussi sur ces thématiques. Est-ce que c'est quelque chose qui était recherché par le collectif sur la création d'usines?
Pas forcément de faire commun, parce que je pense que les expériences sont hyper variées et qu'il y a des choses où on se retrouve et des choses où on se retrouve pas. Mais en tout cas, avoir un endroit où on peut en parler, parce que pour beaucoup d'entre nous, il y a eu un passage en ville pour des études ou pour du travail qui a été le moment où on a retrouvé d'autres personnes queer. On a pu, nous, se rendre compte, interroger, à évoluer comme ça, mais où c'était pas forcément un sujet, et la culture dans ces endroits-là est quand même une culture qui est très urbaine et étudiante même parfois, et c'était une idée d'avoir un espace où on pouvait mettre en commun nos vécus par rapport à ça. Ça a bien marché parce que même quand on distribue sur des événements, sur des trails, tout ça, ça génère aussi des conversations. Et pour nous, c'est vraiment d'avoir presque quelque chose pour alimenter la conversation et la démarrer. Parce que c'est, ouais, comme c'est pas des vécus qui sont partagés en termes de tout le monde a les mêmes, mais comme beaucoup de vécus queer en vrai, il n'y a pas forcément d'espace où c'est pertinent d'en parler dans ce qui est déjà proposé aujourd'hui, voire des fois il y a juste une incompréhension, un fantasme sur ce que ça représente, je pense, quand on en parle avec des gens qui n'ont pas les mêmes vécus, Et c'est plus une question de trouver la multiplicité de ce que c'est que ce qui est, enfin, et du coup, ce qui est commun et ce qui ne l'est pas, en fait.
Justement, Queer des Champs, c'est une revue participative. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé sur le choix des textes, sur la mise en place? Alors, sur ce premier numéro, Access, on parlera tout à l'heure du deuxième numéro. C'est un numéro dans lequel il y a de la poésie, il y a des témoignages, on a l'impression que c'est vraiment presque le journal intime de quelqu'un, il y a du dessin, enfin voilà, il y a beaucoup de formats sur une multiplicité d'expériences et du collage aussi, il me semble. Voilà, comment est-ce que ça s'est choisi les textes? Comment ça se passe, les appels à textes? Comment vous réussissez à trier tout ça?
Tout ce qui nous est envoyé a été mis dans les zones jusque maintenant. S'il y avait quelqu'un qui nous envoyait des choses qu'on n'avait pas envie de leur donner la place, on a annoncé qu'on se permettrait de refuser certains textes. Ça s'est jamais arrivé. Il y a un texte où on a renvoyé un message à la personne en disant « Est-ce que tu peux nous faire une intro ?» parce qu'on n'arrive pas trop à voir le lien entre le texte et le sujet. Et du coup, on l'a mis dans le zine avec cette intro. Les premiers, on a diffusé ça uniquement via nos réseaux personnels sur Internet. On a pris le parti d'avoir aucun réseau dédié au projet. On a juste une page web. Et le reste, c'est un peu par bouche à oreille et par nos réseaux perso que c'est diffusé. Ensuite, on a essayé de diffuser aussi plus dans des espaces réels. Du coup, il y a une douzaine de personnes pour l'instant qui a participé sur chacun des numéros. Et c'est assez varié. Des fois, on ne sait même pas comment les gens ont trouvé finalement ce projet. J'ai l'impression que c'est finalement nous on l'a fait parce qu'on en avait besoin et en fait il y a d'autres gens qui en avaient besoin aussi j'imagine parce que ça il y a beaucoup de monde qui même sans participer pour le diffuser s'est mobilisé en fait dès le départ.
Je reviendrai juste après sur cette question de la diffusion, mais tu nous dis voilà que s'il y a certaines thématiques où vous pouvez vous permettre de refuser les sujets, c'est ce qu'on voit aussi sur l'introduction du site internet, que vous laissez le droit de refuser certains textes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quels sont les critères sur lesquels vous pourriez potentiellement refuser les textes?
Globalement, c'est s'il y a quelque chose qu'on va trouver oppressif ou néfaste politiquement, ou juste que, vu que c'est une plateforme que nous on nomme, que nous on propose, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'endosser, qu'on n'a pas envie de porter comme une, enfin de donner de la présence ou de la visibilité à cette parole-là, ou qu'on n'a pas envie de sans parler de heurter des gens avec, de participer à des systèmes qui font du mal aux gens en fait, on les refusera. Du coup, la liste peut paraître super longue, mais je pense que la plupart des textes ne risquent pas de tomber dans des écueils de ce type-là. C'est notamment tous les trucs dont pour certains où c'est juste, enfin voilà, un texte qui serait profondément raciste ou même, je pense que quelque chose qui serait maladroit sur ces sujets-là, on contacterait la personne. Mais c'est une question aussi de voilà, on ne doit cette présence à personne. Du coup, c'est aussi à nous de décider ce qu'on a envie d'avoir dans cet espace-là.
Sur ce zine, donc, il y a une douzaine de textes qui sont parus dans les deux premiers. Comment est-ce que vous diffusez? Donc, tu disais que ça peut être diffusé sur des espaces publics, lors de Pride ou d'autres événements. Est-ce que tu peux nous parler voilà, justement des espaces sur lesquels vous diffusez, que ce soit papier, numérique, etc. Et puis de pourquoi vous faites ces choix-là?
Officiellement, la seule chose qui existe entre guillemets, c'est cette page web et le zine dynamique. Sur la page web, on peut télécharger pour l'option numérique ou pour impression tous les zines gratuitement. Et n'importe qui est libre de l'imprimer et le diffuser en le vendant à prix coûtant, c'est-à-dire au prix que l'impression lui a coûté. Donc selon qui le distribue, les tarifs vont pas être les mêmes. Nous, en partie d'individus qui participent aujourd'hui à ce projet, donc au fur et à mesure, il y a des gens qui nous ont rejoints. Maintenant, on est 6 ou 7. Du coup, nous, à Saint-Gilles, on est allé avec des stocks sur des prides rurales, celles où on allait, qu'on avait envie d'aller pour le faire. On a eu des invitations aussi maintenant sur certaines prides. On peut pas être partout parce qu'on n'est pas dans tous les départements de France. Il y a d'autres collectifs, d'autres associations sur le sujet qui l'ont aussi distribué, qui est dans des bistrots, il est à plusieurs endroits. Il y en a qui ont été offerts ou achetés par différentes bibliothèques, zinothèques, centres LGBT. Là, cette année, j'ai aussi voulu avoir un espace vraiment d'échange à proposer. Du coup, j'ai fait quelques fois des rencontres autour du zine à différents endroits. Alors ça dépend aussi de moi où je vais, où j'ai des contacts avec un lieu qui peut faire une com, qui a envie de nous inviter et qu'on est disponible pour y aller. Donc cette année, il y en a eu 3, il y en a d'autres qui sont menés à venir, où c'est pas des ateliers d'écriture, mais c'est vraiment un temps d'échange, où on part du zine pour ensuite avoir une conversation entre nous. Et où c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose où moi, en ayant fait 3 dans 3 ans différents, je constate vraiment que, bah oui, quand on est sur l'hyper local, bah en fait, il y a des spécificités locales qui existent et qui sont pas les mêmes, même en termes de qui vient, comment, à quel endroit ça a lieu, est-ce que c'est dans un café, est-ce que c'est dans une enclure sur un terrain où une association s'est installée, est-ce que c'est dans une maison pour tous, ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être chez le particulier, peu importe. Mais la diffusion se fait vraiment, j'ai l'impression, par bouche à oreille, par des gens qui se sentent, en tout cas à qui le zine parle et qui prennent en main aussi de le diffuser. On a eu des gens qui nous ont contactés parce que ils veulent en proposer une traduction en espagnol, parce que le sujet les intéresse et qu'ils ont envie de pouvoir le distribuer chez eux. Finalement, nous, on fait le départ de la diffusion, mais c'est pas nous qui en faisons la majorité. Et il y a des gens qui viennent vers nous où on n'a jamais été nous en contact direct avec eux avant. Ils l'ont su par d'autres personnes qui l'ont su. Enfin, ça fait c'est très organique.
Le zine qui devient un peu vivant par rapport à sa diffusion, à sa réappropriation aussi, j'ai l'impression, comme les petites graines qu'on peut semer et qui partent avec le vent, se planter plus loin. On va poursuivre cet entretien en parlant plutôt du deuxième numéro du zine juste après, mais avant ça, on fait une petite pause.
La première lecture, c'est un poème de Com Champeau qui a pour thème l'exode. J'ai le nom qui sonne du champ boueux d'où je viens. J'ai le nom qu'on n'a pas voulu que je porte. Il ne devait plus être attribué, mais je suis arrivé et j'ai brisé l'équilibre impitoyable de la famille qui comptait ce nouveau membre. En plus, je suis née fille. Outrage ultime. Je ne suis pas partie, pas vraiment. Je vis en ville depuis mes 11 ans. Je revenais les week-ends et vacances dans mon champ debout, caressais les animaux qui m'attendaient et mangeais en silence, à l'écoute de la répétition familière des rythmes qui ne changent qu'aux moissons. Je ne suis pas parti. Je n'y suis juste plus revenu. Je sens mes entrailles se tordre quand je guette les odeurs familières de paille qui volent, quand le train roule au milieu de nulle part, quand ma mère me parle de son jardin et des limaces qui grignotent ses plants. Alors parfois je passe, j'enchaîne bus, train, métro, train, bus, voiture et j'arrive. Je vais rendre visite à un certain bout de la forêt. Je regarde les monts bleus depuis le haut du plateau. Je guette la vivre qui y apparaît. Je vais récolter les boutons qui traînent dans le lavoir. J'emprunte une voiture. Je roule dans les coins que j'aime. Je vais camper là où je ne suis que passé. Je vais rendre visite à un tilleul dans une forêt de ruines. Je me lamente sur l'absence de bon tofu, regrette de ne plus pouvoir manger de fromage, achète le miel des plus vieux papis du marché, redécouvre le pain dégueulasse du boulanger sans concurrence. Parfois, je croise quelqu'un, quelqu'une, qui me ressemble. Puis je reviens, dans un appartement hors sol, et j'écris mes histoires, celles des autres, celles qu'on ne dit pas, celles que je gardienne pour mieux les relâcher. J'écris pour ne pas perdre ce qui me reste, ce qui me rend triste, joyeux, inquiet. Je profite des trains et de jours pour visiter d'autres coins, d'autres campagnes, celles que je ne connais pas, des terrils, parfois, ou d'autres ruines. J'essaye toujours de retrouver un moment, une sensation. Il en est que je me dois d'oublier, d'autres que je ne veux qu'expérimenter à nouveau, certaines que je ne pourrai jamais atteindre. Mais je reste toujours en déplacement, attendant mon tour pour retourner à une terre, lui appartenir, devenir avec elle un partenaire solide qui vient alimenter des réseaux d'interdépendance multi-espèces tellement beaux qu'on les a mis de côté. J'attends une maison, j'attends un autre champ boueux, j'attends mon tour.
Thank you.
C'était une lecture par Valentin qui venait du deuxième numéro de Queer des Champs, Exode, dont on va parler juste après.
Si le premier numéro de la revue ne proposait pas de thème autre que le titre même de la revue, vous avez choisi de thématiser le second numéro avec ce mot « Exode ». On pourrait penser en premier lieu à la locution « Exode rural » qu'on a vu et revu dans nos manuels d'histoire géo et qu'on a entendu et réentendu sur les plateaux des grands médias, mais ce mot, il me fait aussi penser à un exode qui serait peut-être spécifique aux personnes queer qui sont parfois amenées à quitter un placard et au passage peut-être même leur famille et leur foyer. J'ai l'impression que c'est une représentation assez commune que d'avoir une personne queer qui est amenée à quitter sa petite banlieue slash son petit village pour pouvoir découvrir et vivre son identité queer en ville. Je pense par exemple à des films comme Pride de Matthew Varcus ou encore Tom à la ferme de Xavier Dolan. C'est d'ailleurs une question que tu poses toi, Horty, dans le texte qui ouvre ce second numéro.
Est-ce que grandir queer, c'est aliénant, au point qu'on ne se reconnaisse pas dans les autres enfants ? Est-ce que faire des études et partir en ville, c'est la trajectoire sociale normale des jeunes queers ruraux ?
Et tu ajoutes également d'autres questions.
Comment vivent les queers, les gays, trans, lesbiennes, bi qui sont restés dans leur canton ? Comment on invente des lieux de socialité queer sans être un entre-soi de gens revenus de la ville avec un diplôme en poche ou raté ?
Est-ce que tu peux nous raconter comment ces questions se sont cristallisées sur le mot « exode » ?
Je sais plus exactement les choix des thèmes. Ça s'est vraiment passé en fait sur des discussions que nous on a eues entre nous entre les deux numéros. En fait, quand on les a diffusés, on a discuté avec les gens. On a aussi cherché forcément à creuser des sujets qu'on avait abordés dans le premier. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup cette question de aller s'intégrer quelque part. Je pense qu'on était aussi plusieurs à être dans des chemins personnels de être en déménagement, en projet de déménagement, venir de changer de région, avoir essayé de revenir à la campagne, de pas avoir réussi à se construire un espace où on était bien là où on était, d'être venu en ville. Alors, on était plusieurs à être vraiment dans ces histoires de mobilité d'un espace à l'autre, et du coup ça nous a paru quelque chose d'assez intéressant de pas questionner que le être dans ces espaces-là, mais de y aller, en revenir, en partir. En tout cas, c'était un sujet qu'on avait beaucoup abordé dans les mois qui ont précédé l'appel, et du coup, ça nous est venu assez facilement. Et effectivement, la notion de exode rural, elle parle à tout le monde. Nous, on avait envie de le mettre au pluriel parce qu'il y en a plein de formes, et que des fois, on n'est pas obligé de quitter la campagne pour la ville, on peut quitter notre campagne pour une autre campagne, ou pour un autre endroit de la même zone géographique, même pour le travail.
Et est-ce que vous avez considéré un peu la charge symbolique de ce mot ? Parce que je suis allée voir le fameux CNRTL, le meilleur dictionnaire du monde, et le sens premier d'exode, c'est quand même la sortie d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse. Bon, il y a plus léger, quoi, comme charge symbolique.
Je pense que nous, là, avec le sujet, la charge symbolique qu'on a, c'est surtout celle d'exode rural, effectivement, qu'on a plus en tête, parce que l'exode des Hébreux est plus passager, si on l'a dans les cours d'histoire. Mais je pense que oui, il y a quand même une idée assez chargée de l'exode. C'est pas le voyage, c'est un départ qui peut être à regret, qui peut être sur une impossibilité de rester. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très matériel comme départ. C'est sur l'exode rural, c'est on va chercher du travail en ville.
Il y a une idée de contrainte, quoi.
Il y a une de contraintes matérielles ou de nécessité matérielle, en tout cas.
Les autres notions que j'avais notées en me penchant sur cette définition dictionnaire, c'était déjà le côté départ en masse. Il y a l'idée que le territoire se vide de cette partie de la population qui part en exode, ce qui peut du coup un peu questionner pour les personnes queer, dans le sens où ça peut être une expérience très partagée, mais en même temps on se sent quand même très seul, et c'est cette solitude qui peut nous amener à faire notre valise. Et l'autre notion que j'avais notée, c'était cette idée de fuite, de quitter un espace habituel. Est-ce que c'est des choses qui se sont retrouvées dans les contributions que vous avez reçues ?
L'idée de départ en masse, peut-être pas, ou alors dans ce qu'on a abordé d'un point de vue sociaux, parce que c'est aussi une année où on a été plusieurs à chercher tous les livres de sociaux qui abordaient une partie du sujet, parce qu'il n'y en a pas qui s'intéressent. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de publication spécifique qu'on ait trouvée sur le sujet des personnes LGBT qui grandissent en milieu rural. Je crois qu'il y en a qui sont en cours, donc peut-être qu'on aura des thèses dans les années qui viennent sur le sujet. Il y a, en tout cas, ce qui est revenu, je pense que c'est une idée de quand même peut-être déchirement par rapport à ce départ-là, de questionner si c'est une fatalité, si on peut revenir. Donc, je pense que finalement le terme d'exode n'était pas mal choisi sur sur comment s'est vécu ces trajectoires pour certains, parce que évidemment qu'il y a du monde qui en fait part en vie et il reste parce que c'est là que qu'on peut être bien aussi en fait.
Et est-ce qu'il y aurait une contribution sur ce second numéro qui a été particulièrement surprenante ou bien émouvante dont tu aimerais nous parler?
C'est moi qui ai fait la mise en page, du coup il y a un peu triché là-dessus. C'est que pour moi, celle avec laquelle on ouvre le numéro, qui est du coup un poème anonyme, qui commence par « J'ai oublié le nom des arbres ». Un gros retour que j'ai eu à la sortie d'usine, c'est « Il n'y a pas le droit de nous faire pleurer dès la première page ». Mais c'est un peu pour ça que je l'ai mis, et je pense que c'est une des contributions qui m'a le plus ému moi aussi, et qui a, je pense, résonné un petit peu avec perdre des trucs communs qui faisaient partie de notre vie et auxquels on se déshabitue par leur absence.
Bah, si tu veux, je l'ai sous les yeux, je peux le lire, puis après tu pourras nous faire une petite audio-description de comment tu as fait cette mise en page. J'ai oublié le nom des arbres. Le nom des fleurs, le nom des filles que j'ai aimées, le nom de celle qui m'a aimée et que je n'ai pas regardée. Parce que les filles, ça ne s'aime pas. Avec la ville, j'ai oublié le nom de tout, mon propre souffle. On ne respire pas aussi bas. J'ai dilué ma peau frottée, mon nom sur les trottoirs. Je suis devenue invisible et j'ai appris le nom des rues, des boulevards, des avenues. J'ai appris les supermarchés à bien fermer ma porte à clé pour ne jamais être à l'abri. J'ai laissé mon sexe là-bas. Je n'en veux plus, je vous le laisse. Un jour, je rentrerai chez moi, et d'ici là, j'oublierai tout.
Pour la mise en page, on a donc ce petit poème anonyme qui est dans un encart, un petit peu de travers, sur le fond d'une photo qui vient de quelqu'un, donc Paris Marquesouza, qui nous a envoyé tout un lot de photos en nous disant qu'on pouvait s'en servir pour illustrer l'usine. Et là, du coup, c'est un arbre qui a la forme des feuilles. Je dirais que c'est un fruitier, peut-être un pommier, un poirier, quelque chose comme ça, qui est pris en contre-jour avec, du coup, le soleil très blanc derrière et les branches qui sont un petit peu en noir et bleu qui se découpent dessus.
D'ailleurs, pas mal de photos de Paris Marquesouza viennent de l'association Chez Mamie, un espace en chantier participatif en vue de créer des espaces ruraux joyeux, créatifs, ressourçants. Allez checker ça. Et en attendant, on va écouter une nouvelle sélection musicale de notre invité. Il s'agit de « J'ai frôlé ta main » par Cheval de Trait.
Seule la main rendue toute chose au bord du canal. J'y J'effre le sa main. Au bord du canal, J'effre le sa main. Après le canal, nous avons traversé ce pont de pierre. Après le canal, nous avons traversé ce pont de pierre. Nos regards ne se quittaient pas l'on lit la 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 la. Nos regards c'est nos mains ne se quittaient.
C'était « J'ai frôlé ta main » par Cheval de Troie. Vous êtes toujours sur Syllab dans l'émission « J'irai cracher sur vos ondes ».
Avant de faire cette émission, on a un peu discuté avec toi, Horty, histoire d'en savoir plus sur les références qui pouvaient alimenter le projet Queer des Champs, et tu nous as parlé de Benoît Coquart, sociologue connu pour sa thèse « Sauver l'honneur », appartenance et respectabilité populaire en milieu rural. Et plus encore, tu nous as parlé de son livre « Ce qui reste », publié aux éditions La Découverte, où il détricote les fantasmes autour du « vrai peuple de la France oublié », ou des beaux racistes et ignorants. À partir d'une enquête immersive dans le Grand Est, il raconte le quotidien de ceux qui habitent les espaces ruraux, où sont lentement asphyxiés les services publics, les usines, les associations et cafés, et où pourtant persistent des consciences collectives et solidaires. Puisque le troisième numéro de la revue Queer des Champs est sur le thème connexion, on voudrait te faire réagir à un extrait où Benoît Coquart parle d'un concept qui, selon nous, est une pépinière à connexion de la ruralité. Cet extrait provient de la chaîne YouTube Vert Dragon TV, où Benoît Coquart va parler de beaucoup de choses, notamment ce qui fait commun entre les cités et les espaces ruraux, mais où lui va aussi parler des balles.
Regarde sur YouTube un samedi soir en province. C'est une bande de jeunes qui bossent à l'usine et machin toute la semaine et qui attend le samedi soir pour aller au bal. Et c'est dans l'âge d'or du bal, qui est le début des années 90, avant qu'arrivent les grosses discothèques, qui en milieu rural vont bouffer le bal. Maintenant, c'est les boîtes qui ferment et il y a un revival des balles. Enfin, il y a tout un revival aujourd'hui d'une espèce d'identité villageoise qui est un peu fictive parce que, en fait, elle repose plus sur vraiment le fait de vivre et travailler au pays. Où t'avais des armadas de gamins en mobylette qui arrivaient, les jeunes en voiture, etc. Les vieux y allaient aussi. T'avais la musette jusqu'à 11h et après, c'était des boum-boum, comme disaient les vieux, jusqu'à 5h du matin. Et après, boum-boum, la baston de fin de bal où on disait, ah, mais avant, on se payait un coup à la buvette parce qu'on avait du savoir-vivre après trois nions dans le nez, tu vois. Et du coup, ça a disparu au profit d'autres manières de se fréquenter.
Alors, Horty, qu'est-ce que tu as à nous commenter de cet extrait?
Je sais pas si j'ai grand chose à en dire. Je pense que les campagnes, moi, j'ai grandi et où je suis aujourd'hui, c'est pas le même type de milieu que là où Benoît Coquart a fait son enquête. Parce que c'est des campagnes qui sont à proximité de grosses villes. Enfin, c'est-à-dire à une heure et demie de route d'une grosse ville. Donc les gens, ils travaillent et ils sont plus actifs, plus attractifs peut-être. Je me suis quand même souvent demandé s'il y avait encore autant de ces balles, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, comment ce serait transformé. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que ce soit plus un lieu de socialisation aussi répandu, ça fait que les gens qui y vont sont un public assez spécifique. Ado, j'ai quand même eu forcément les balles des pompiers, les balles du 14 juillet, on allait avec des amis, avec en couple, tout ça. Mais c'est vrai que depuis un peu mon coming in puis mon coming out, c'est pas des endroits où je suis retourné du tout. Donc c'est un peu, il y a des endroits où c'est réinventé dans des campagnes où il y a des collectifs qui essayent de faire, notamment dans des régions où il y a plus du baltrad, j'ai l'impression que ça se fait dans du baltrad queer. Je pense que c'est juste des espaces que moi je ne fréquente pas, mais s'il y a des gens qui les fréquentent et qui ont envie d'écrire dessus, je pense que ça fait vraiment partie des connexions qui peut y avoir, et en tout cas c'est quelque chose que peut-être moi j'aimerais bien avoir.
J'avoue que je me sentais trop malin en choisissant cet extrait, parce que tous les queeros que je connais qui vivent la campagne sont les premiers à dire « bah non, je peux pas ce week-end, je vais en bal en fait, j'ai un fest-noz, blablabla ». Donc j'étais persuadée que quelqu'un avait déjà écrit là-dessus et l'avait déjà envoyé à la revue. Mais si c'est pas le cas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez déjà reçu en restant vague, parce qu'il y a la surprise, mais s'il y a des choses qui sont ressorties.
Pour le prochain numéro, je ne vais pas conseiller. On a reçu déjà pas mal de contributions. On a quelques trucs qui sont plutôt autour des applications de rencontres. J'ai pu parler avec des gens que je sais pas s'ils nous ont déjà envoyé leur contribution ou s'ils vont oublier de le faire, mais qui avaient envie de parler plutôt de ce qui existait avant, parce qu'il y a aussi une question générationnelle. Pour l'instant, c'est plutôt des gens, on va dire, de 20 à 35 ans qui contribuent, mais on aimerait bien élargir ça. Et du coup, des gens qui pouvaient nous parler du WAP, des chaînes téléphoniques, des trucs comme ça, où j'ai très envie de lire là-dessus aussi. On avait évoqué aussi, j'ai pas lu toutes les contributions, donc je peux pas dire si ce sera dans le zine, mais des sujets qu'on avait évoqués, on avait parlé de pas juste se connecter entre nous, mais comment on connecte aussi avec notre voisinage, avec justement, en fait, les hétéros avec lesquels on vit, parce qu'on veut pas, on n'a pas l'option d'un entre-soi quand on vit dans un endroit où en fait on est trois si on a de la chance. Et du coup, on avait parlé de l'importance du potager, par exemple, dans ces relations-là, de très souvent les relations, enfin, très souvent. Quand on est dans des milieux où on peut faire du jardin, où on a cet espace, où il y a ça qui est facilement un sujet d'échange, en fait, intergénérationnel aussi, dans le très local, dans s'échanger des plants, des graines,
Ah
tout
bah
ça.
clairement, le jour où Mamie Gertrude, qui vit une rue au-dessus, te passe son surplus de courgettes, tu sais que t'es adopté, hein.
Voilà. On avait parlé aussi beaucoup sur la rencontre que j'ai proposé à Saint-Étienne. Il y a eu beaucoup le sujet de la voiture qui est revenu. En fait, la connexion, quand on est dans des zones où il n'y a pas les services à proximité, c'est aussi prendre la voiture, c'est aussi avoir ses amis qui vivent à 15 km si on a de la chance, un peu plus parfois. Donc un rapport à la temporalité. Donc voilà, même si je voulais, je peux pas spoiler ce qu'il y aura dans le prochain zine parce que j'ai été regarder ce qu'on avait reçu, mais pas les lire encore.
Et j'y reviens peut-être un petit peu tard dans le déroulé de la conversation, mais Kezako WAP.
Je ne sais pas précisément, j'attends la contribution à ce sujet. C'était un réseau sur Internet. J'associe ça au Minitel, mais je sais pas si c'était juste avant ou juste après le Minitel, mais un petit peu le même genre de réseau pré-Internet, où notamment des hommes gays se retrouvent, enfin, se trouvaient pour discuter et pour parfois se proposer des rencontres.
J'ai voulu demander Internet rapidement, mais apparemment c'est aussi une chanson de Cardi B, donc ça complexifie les recherches. Je suis pas sûre que Cardi B soit très au fait des annuaires privés des hommes gays en espace rural.
Je trouve que c'est probablement quelque chose de très franco-français.
Comme on sait si bien le faire. Est-ce que pour conclure cet entretien, tu as un mot à adresser aux personnes qui nous écoutent ce soir et qui peut-être sont dans l'hésitation de est-ce que je suis légitime pour créer quelque chose, parce qu'on a pas mal parlé des textes, parce que c'est facile à valoriser dans l'émission radiophonique, mais il y a également des photos, des dessins, etc. Qu'est-ce que tu as à dire pour cette personne qui écoute et qui est là à se frotter les index en mode non, mais peut-être non, en fait, alors que si.
Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais truc à nous envoyer. Il n'y a pas de qualité plastique. Comme je disais, on fait pas de sélection, on essaie de trouver de la place pour tout le monde. La seule limite, c'est peut-être d'essayer de pas prendre plus d'une double page. Nous, on est toujours content d'avoir, même si c'est juste des petits gribouillages à mettre dans un coin. En fait, c'est vraiment un espace d'expression. Et pareil, sur la légitimité de, mais est-ce que moi, je suis concerné par le sujet de la ruralité? Je pense qu'en fait, il y a énormément de monde qui l'est. Nous, dans l'exemple que j'aime bien prendre, c'est que une expérience qu'on n'associe pas du tout à la ruralité, mais qui clairement ne peut pas être urbaine, c'est que parmi mes amis de lycée, il y en a beaucoup où leur premier job d'été, ça a été de faire la sécurité de la centrale nucléaire. C'est pas l'image qu'on a de la campagne, mais c'est pas en ville qu'on construit les centrales nucléaires. Et voilà, il y a toute une histoire aussi autour des cités dortoirs, autour du travail en logistique, qui est aussi souvent dans les campagnes. Il y a plein de petites villes aussi qui, en fait, ont les mêmes problématiques exactement sur beaucoup de points. C'est pour ça qu'on a précisé ce truc hors ville. Et en soi, ça peut même être hors des grandes villes, parce que une ville de 10 000 habitants, c'est pas la même chose que de vivre à Rennes, à Paris ou à Lyon où il y a une scène culturelle et militante et une vie étudiante très différente.
Merci beaucoup Ortie pour le temps que tu nous as accordé. On va écouter une dernière lecture proposée par Valentin qui, du coup, a choisi un texte issu de la première revue.
Ces deux poèmes de Anna Pueyo, qui sont du premier fanzine Queer des Champs. Le premier s'appelle Réparation. Des mains de Il, des mains de Elle, des mains de Biel soulevant la terre amassée, des mains qui s'allient sans même se toucher, peu importe le genre, le style, la force ou la pilosité. Tout est permis dans cet endroit, tant que toutes les mains soignent ensemble le chemin que l'orage renverse. Le second poème s'appelle Igor. Igor, petit lutin, dans sa robe à fleurs et son petit tracteur.
C'était une lecture de Valentin du de deux poèmes issus de la première revue Queer des Champs. Un deuxième numéro est déjà paru et un troisième est en cours de construction. Clara, je te laisse donner toutes les infos pour y participer.
On vous a parlé juste avant du contenu de cette troisième revue à venir. Vous pouvez envoyer exceptionnellement jusqu'au 1er juillet 2026 vos contributions à l'adresse mail queer-des-champs@riseup.net. Voilà, et n'hésitez pas, en tout cas, on vous mettra tout dans la description du podcast également.
Au revoir à Horty. Et du coup, bah, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un petit endroit, un petit groupe pour participer à Queer des Champs, on vous propose un atelier d'écriture le 22 juin à 18h à la Maison de la Poésie. C'est tout près de la Vilaine, genre en face des Prairies Saint-Martin, mais de l'autre côté de l'eau.
Et de notre côté, sur J'irai cracher sur vos ondes, il me semble que tu nous prépares quelque chose, César, pour les prochaines semaines.
C'est ça, une émission hors les murs, puisque j'irai à Binic, Étable sur mer, pour m'entretenir avec d'une part Antonin Fadinard, membre de la direction du collectif Linceus en tant qu'acteur et auteur, et avec Sacha Todorov, auteur et metteur en scène de Anne Bonny, La dernière pirate. C'est une pièce qu'il a écrite au cours d'une résidence au Tagarin, café librairie d'Étable sur mer, et cette pièce, ainsi que Suivant une ligne perpendiculaire à la route où va jouer Antonin Fadinard, font toutes les deux partie de la programmation du festival Linceus, et c'est pour ça que je m'en vais les rencontrer. On va parler en long en large de ce festival de théâtre contemporain et in situ.
Restez avec nous à l'antenne de Scylla pour l'émission juste après nous, Mythe d'ado, crise d'adulte. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 19h, sur J'irai cracher sur vos ondes. Merci à Horty qui était avec nous ce soir. Merci, Cess.
Merci, Clara. Ciao, ciao.